Alors, avant de rentrer dans le détail de vos programmes respectifs, une première question assez générale. Où siégerez-vous si vous êtes élu député samedi prochain, Nicole Sanquer?
Alors, comme l'a annoncé déjà le président du Tapura, Wiratira, nous allons siéger au prix de la majorité présidentielle, évidemment.
La majorité donc en marche, c'est-à-dire que les députés pour l'instant sortants qui étaient donc membres du Tapura, en tout cas pour deux d'entre eux, siégeaient à l'UDI et cette fois-ci vous avez essayé de changer, de passer en marche.
Voilà, exactement. Nous avons le président a eu l'occasion de rencontrer l'équipe du président Macron. Nous sommes donc positionnés dans la majorité présidentielle puisque l'accord de l'Élysée qui transcrit en fin de compte notre programme a été validé par l'équipe de Macron.
Emmanuel Macron, pour vous, Théoré Héritier, est-ce que vous savez déjà dans quel camp, dans quel groupe politique vous siégerez si vous êtes élu samedi?
En ce qui nous concerne, nous avons le Grand Conseil qui décide donc de toutes ces décisions. Donc nous attendrons donc cette décision. Ceci dit, il est évident pour nous d'aller vers donc le groupe qui donc sera très attentif à nos demandes.
Alors
pour la Polynésie.
Vous aviez soutenu Marine Le Pen lors de la présidentielle. Est-ce qu'il est possible que des députés aient un siège au Front
Nous avons maintes fois répété qu'il n'était pas question pour nous de siéger au sein du Front National. Il ne nous reste plus que les Républicains et bien sûr la majorité de M. Macron, notre président. Mais personnellement, j'irai vers le groupe qui vraiment aura une bonne écoute sur les attentes de la Polynésie.
Alors justement, on continue avec vous, Théola Eliti. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est député polynésien, de suivre un peu le pouvoir? On a l'impression que les députés se positionnent un peu, pour reprendre l'expression de Gaston Flosse, là où l'herbe est la plus verte. C'est-à-dire que est-ce que vous pensez qu'on est obligé de suivre la majorité lorsqu'on est député?
Nous sommes surtout persuadés que quand on est en politique ou d'autres fonctions, nous devons avoir cette foi et cette volonté de nous lever et d'être les meilleurs porte-parole devant donc toutes les instances qui se trouveront donc de face à nous. Aujourd'hui, il est vrai que lors du premier tour au niveau national, les macronistes sortent grands vainqueurs et pour nous, il s'agit d'aller les voir, d'aller voir le président de la République pour aussi exposer notre vision des choses en Polynésie française.
De la même façon pour vous, Nicole Sanquer, c'est parce que Emmanuel Macron est sorti pour l'instant en tête du premier tour des législatives que vous choisissez plus facilement d'aller vers ce groupe?
Non, pas forcément. D'ailleurs, si vous regardez la dernière mandature, nos parlementaires ont siégé au sein de l'UDI et nous avons pu faire avancer les dossiers de la Polynésie française avec un gouvernement de gauche. Je pense que tout repose sur les relations que nous pouvons avoir avec le gouvernement, avec les élus de l'Assemblée nationale. Donc, non, c'est pas forcément se positionner dans la majorité, mais c'est surtout parler au nom de l'intérêt général, défendre un programme et avoir cette écoute attentive, évidemment, de Paris.
Alors, une question spécifique pour vous, Nicole Sanquer, vous êtes actuellement ministre de l'Éducation, c'est incompatible avec le poste de député, le mandat de député, pardon. Quand abandonnerez-vous votre poste de ministre si vous êtes élu?
Alors, j'ai 30 jours pour démissionner et quitter mes fonctions en cas d'élection, évidemment, à l'Assemblée nationale. En ce moment, nous préparons la rentrée scolaire et donc je démissionnerai une fois que la rentrée sera prête.
Et vous serez remplacé par?
Ah, ça, il faut poser la question au président du pays.
Voilà, j'aurais essayé en tout cas. On rentre dans le détail de vos programmes respectifs sur une question cruciale, parce que vous avez des positions divergentes là-dessus, c'est celle du statut de la Polynésie française. Est favorable à l'autonomie telle qu'elle est définie aujourd'hui, avec un toilettage statutaire. Le Tahuera a un statut une évolution statutaire vers un statut de pays associé. Théora Eliti, qu'est-ce qui ne vous va pas dans le statut actuel d'autonomie et pourquoi ce statut de pays associé?
Je voudrais quand même nous rappeler que le statut de l'autonomie a été initié par le Tahuera Wiratira et écrit par le Tahuera Wiratira, mené par le Tahuera Wiratira pendant 33 ans maintenant. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de dire que nous devons donc encore évoluer. Nous avons commencé, nous avons écrit un nouveau statut pays associé à la République pour améliorer ce statut. En fin de compte, lorsque j'entends les débats de divers partis politiques, l'essentiel pour nous, c'est que l'on puisse donc encore actionner et avancer dans nos démarches. Je parle notamment des grands projets. Lorsque nous sommes arrivés en 2013, vous savez pertinemment que nous avons voulu mettre rapidement rapidement en place les grands projets que nous avons soumis à la population. Mais il y a eu quelques entraves. Aussi, nous nous sommes dit, il est temps pour nous aujourd'hui. Nous sommes assez formés, et ça, je voudrais vraiment remercier l'autonomie. Nous sommes toujours autonomistes, mais nous sommes des autonomistes plus volontaires et plus responsables. Pour donc montrer encore une fois que le Tahoura n'est pas là pour voir passer les choses, mais aussi pour écrire et aussi pour donc pouvoir préparer notre jeunesse et notre avenir de demain.
Alors, ça veut, un statut de pays associé, ça veut dire davantage de compétences pour la Polynésie. Quelles compétences, autres que celles dont vous venez de parler, manquent à la Polynésie?
Tout simplement, lorsqu'on parle des grands projets, nous avons besoin d'aide financière. Il est vrai que la France a aussi des difficultés aujourd'hui, qu'elle ne pourra pas nous aider entièrement. Nous nous sommes retournés vers d'autres grands pays, notamment la Chine, vous en avez entendu parler. Et là aussi, il nous fallait avoir donc une possibilité de pouvoir, par exemple, faire des emprunts aussi au niveau de la Chine. Nous savons pertinemment qu'au niveau des emprunts, nous ne pouvons le faire que donc au niveau de la France, d'autant plus que les taux d'intérêt sont beaucoup plus intéressants donc dans d'autres pays. Voilà. Mais il n'est pas question pour nous de sortir de la France. Il s'agit simplement d'accompagner au mieux l'évolution et la mise en place de nos grands projets.
Nicole Sanker, qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce statut de pays associé proposé par le Tahoura 1?
Alors tout d'abord, c'est surtout comment faire passer ce statut de pays associé alors qu'il n'existe pas encore, et surtout c'est la démarche, hein, en sachant que pour faire adopter un statut de pays associé, il faut demander au président de la République de modifier la constitution et ensuite passer par un référendum qui interroge évidemment pas seulement la Polynésie mais toute la France.
Il n'existe pas dans le sens où il n'y a pas d'exemple dans la République française, voilà, de pays associés.
Il faut faire une modification de la constitution de la France. Et cette démarche, à mon avis, au bout de 5 ans, je ne pense pas que ça viendrait, que ce projet aura été abouti.
Voilà. Une question que je vous pose à toutes les deux, en commençant par Nicole Sanker. Est-ce que vous pourriez envisager, c'est une question que j'ai posée à Maïna Sage hier également, que dans un autre contexte économique, que si la Polynésie avait des ressources propres peut-être plus importantes, on pourrait aller vers une démarche d'autodétermination de la Polynésie, d'indépendance donc, ou est-ce que c'est hors de question selon vous?
Pour le moment, c'est hors de question. Aujourd'hui, c'est vrai que nous proposons une réforme statutaire pour surtout améliorer le fonctionnement de nos institutions, réduire les délais. Vous savez, par exemple, quand on a une convention État-pays, qu'il y a un avenant qui est amené, il y a toute une procédure avec un passage à l'Assemblée qui, dans la gestion du pays, nous retarde énormément. Il y a beaucoup d'articles à préciser. Si je prends le cas de l'éducation, par exemple, on parle de la mise à disposition de ces enseignants, mais on nous précise pas que cette mise à disposition est gratuite. Donc, à tout moment, l'État peut nous demander un remboursement, ce qui représente quand même une somme de 65 milliards. Aujourd'hui, nous avons inscrit dans ce statut des compétences, mais que nous n'arrivons pas finalement à exercer complètement. Donc, nous, il n'y a pas de surenchère institutionnelle à l'heure actuelle. C'est vraiment pour faciliter le fonctionnement à l'intérieur de notre pays.
Théora Riti, est-ce que viscéralement vous êtes attachée, vous pensez que la Polynésie doit rester attachée à la France, ou est-ce qu'on peut imaginer dans un autre contexte économique, encore une fois, avec des ressources peut-être plus importantes pour la Polynésie, d'aller vers l'autodétermination un jour?
Nous sommes autonomistes et nous resterons autonomistes. Il n'est pas question pour nous de sortir de la France. Ceci dit, nous sommes aussi des personnes volontaires qui voulons donc améliorer nos performances et surtout accompagner notre population dans la mise en place de plusieurs projets et surtout dans le développement de nos ressources propres. Puisque le secteur primaire est aussi un secteur très important en Polynésie. Nous avons une géographie qui s'y prête, notamment au niveau de l'agriculture, notamment au niveau de la pêche, de l'artisanat. Voilà quelques ressources que l'on pourrait développer, et nous avons encore plus besoin de la France aujourd'hui. Ceci dit, nous ne voulons pas donc revenir en arrière, être des colons. Nous voulons être vraiment les partenaires de la France pour pouvoir donc mieux accompagner la population et ce pays.
Un mot des accords de Papeete Théora Riti. Vous allez être saisi dans quelques temps puisque l'Assemblée va être consultée sur ces accords. Vous en avez très vraisemblablement pris connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez du contenu de ces accords?
Comme je l'ai toujours dit, les sujets qui ont été donc évoqués dans ces accords, ce sont en fait les sujets que retiennent tous les partis politiques. Maintenant, que ce soit à travers les accords de Papeete, les accords de l'Elysée ou bien d'autres appellations, ce qui est important, c'est de pouvoir les mettre en place. Et surtout qu'il y ait une bonne écoute effectivement à Paris concernant certains sujets qui pourront, et Paris pourra nous aider de ce côté-là. Donc pour moi, il s'agit de dire quelle est la priorité pour ce pays aujourd'hui, vu le contexte économique et surtout le contexte social que nous vivons aujourd'hui, quelles sont les priorités pour accompagner au mieux notre population.
Mais le contenu de ces accords, il vous satisfait ?
Le contenu, il y a encore des choses à améliorer, effectivement.
Hein, lesquelles,
par exemple ? Quand on parle, par exemple, du social, là aussi, nous n'avons pas suffisamment accentué là-dessus, puisque pour ma part, il s'agit vraiment d'accompagner ce secteur, cette catégorie de population qui, je vous assure qu'aujourd'hui, cette fracture sociale augmente de plus en plus. Quoi qu'en disent certains, ces familles sont de plus en plus en difficulté aussi. Pour moi, il s'agit de sécuriser, bien sûr, cette PSG qui est notre seul filet social aujourd'hui, puisque depuis quelques années, depuis 2008, on entend beaucoup parler donc de ce grand souci, de ce grand trou, si je peux me permettre. Il y a eu plusieurs discussions avec nos partenaires sociaux. Il n'y a pas vraiment eu de réelles décisions de prise depuis jusqu'à aujourd'hui. Et je pense, pour ma part, qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est vraiment de pouvoir réaliser des projets pour donner du travail aux gens, pour qu'il y ait moins de personnes, moins de ressortissants RST et plus au niveau du RGS. Là, enfin, on pourra retrouver un petit peu le sourire que nous connaissons en Polynésie française.
Nicole Sanquer, vous êtes partie du gouvernement qui a porté ces accords de Papeete. Est-ce que vous êtes...
de l'Élysée.
Ces accords de l'Élysée, ça a changé de nom, excusez-moi. Est-ce que vous êtes confiante sur la mise en place par l'équipe Macron, en tout cas sur les contacts que vous avez pu avoir avec l'équipe d'Emmanuel Macron pour la mise en place concrète de ces accords?
Oui, tout à fait. Mais ce que je veux préciser, c'est que dans l'accord de l'Élysée, en fin de compte, nous sommes venus sécuriser tout ce que nous avons obtenu de l'État depuis 2 ans et demi. Et là, je me retourne vers ma collègue Théoura, notamment le soutien financier que nous apporte aujourd'hui l'État au niveau du RST. Ça, c'est bien inscrit dans l'accord de l'Élysée pour qu'il y ait une continuité de ces engagements, tout comme le nucléaire. Donc, tout ça a été sécurisé dans l'accord de l'Élysée. On y revient pas. Et par contre, il y a une quarantaine de mesures à mettre en œuvre avec 3 thèmes principaux. Le premier, c'est l'accompagnement de l'État au développement économique de notre pays. Ensuite, l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Et surtout, ne pas oublier agir pour le désenclavement de nos archipels éloignés. Donc, nous avons essayé évidemment de cerner tous les sujets où l'État pourrait nous accompagner, parce que on est une autonomie avec des compétences. Il y a des sujets qui relèvent des compétences du pays, et c'est ce que nous mettons en œuvre depuis 2 ans et demi, depuis que la situation évidemment économique du pays s'est améliorée. Aujourd'hui, nous prévoyons donc des gros investissements. C'est vrai, nous ne sommes pas sur le Marina Beach, faute d'investisseurs, mais par contre, nous avons une vraie politique d'investissement, des chantiers qui sont en cours actuellement pour redonner de l'activité au secteur privé afin qu'on puisse réembaucher des personnes. Donc, et on parle du secteur primaire. Là aussi, des aides ont été mises en place par le pays au niveau de l'agriculture. On prévoit de nouvelles affectations de terres domaniales pour justement lancer ces projets-là, et notamment dans nos archipels, et accompagner surtout ces jeunes qui ont des projets. Pas pour vraiment qu'ils puissent développer l'activité qu'ils ont envie. Donc ça, ce sont des compétences du pays. Et il est vrai que dans l'accord de l'Élysée, nous avons surtout focalisé l'aide de l'État sur certains sujets.
Alors, on vient de l'entendre, et c'est un des thèmes forts du gouvernement, cette reprise économique. Pour vous, Théoré Viti, la reprise, elle se fait sentir?
C'est ce que je trouve extraordinaire dans cette nonchalance, puisque depuis quand même 3 ans que le nouveau gouvernement gouverne ce pays, on voit vraiment donc qu'il y a eu beaucoup de rencontres effectivement avec les communes, avec les sociétés, avec plusieurs partenaires, mais que quasiment rien ne se fait. Lorsqu'on me parle de sécuriser donc la PSG, le RST dans le cadre de l'accord de l'Élysée, je dis on se contente de peu. Je rappelle quand même que depuis 2015, c'est 1,4 milliard sur 3 ans. Ils nous disent donc qu'ils vont sécuriser, donc pérenniser. Mais la situation est de plus en plus grave. Le nombre de ressortissants est resté à plus que doubler depuis. Voilà les vrais sujets qu'il faut débattre. Oui, comme je dis, nous sommes tous autonomistes, aussi bien le Tapura Huratira que le Tahura Huratira, puisque le Tapura vient du Tahura Huratira. Mais nous, Tahura Huratira, nous disons, soyons beaucoup plus responsables et exigeants. Ce n'est pas de faire front donc à l'État, non du tout. Il y a beaucoup de respect, mais nous sommes des élus responsables. Si nous nous contentons de peu, nous allons tout doucement. Il y en a qui souffrent. Effectivement, on voit quand même quelques petites améliorations, mais qui en profitent aujourd'hui? Quand on sait que le coût de la vie augmente de plus en plus, ça c'est pas aujourd'hui. Lorsqu'on tourne sur donc dans les quartiers, les gens crient parce qu'ils ont quand même à la fin du mois de quoi payer leur électricité, de quoi, et à la fin, que vont-ils payer, que vont-ils mettre dans l'assiette de leurs enfants? Voilà, ce coût de la vie qui augmente, je crois qu'il faut à un moment donné revenir sur la réalité et agir. Agir tout de suite pour ne pas que demain, on se retrouve comme à la Guyane, par exemple, qui se sont révoltés. Et c'est ce qui nous attend sous peu. Donc aujourd'hui, travaillons ensemble pour que les priorités se fassent. Ceux qui ont déjà quelque chose à la fin du mois, tant mieux. Mais ceux qui n'ont rien, comment on fait?
Nicole Sanker.
Non, il est difficile de débattre, hein, parce que depuis quelques mois, quand même, le Tahouira ne veut pas admettre les chiffres qui ont été publiés aussi bien par l'ISPF que par l'IOM. Hein. Les chiffres cités par le Tahouira sont quasiment exagérés, voire doublés. Il n'arrive pas à reconnaître cette évolution de la situation économique de notre pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas débattre, parce que après ce que je viens d'entendre, nous avons fait des efforts depuis 2 ans et demi, par exemple, sur la baisse du coût de la vie. Nous avons pour cela, l'essence a diminué. Nous avons même le riz qui a diminué. Nous avons les cantines scolaires pour tout ce qui est majoristique qui sont gratuites aujourd'hui. Nous avons relancé les aides au logement, hein, aussi bien pour la rénovation. Nous avons repris tout ce qui est chantier pour justement pouvoir proposer des logements sociaux à ceux qui vivent à 20 voire 30 dans le même foyer. Nous prévoyons des exonérations fiscales encore pour baisser le coût des vêtements. Donc moi je dis c'est de la mauvaise foi que de venir encore avec des chiffres qui ne sont plus d'actualité. Il faut absolument réactualiser vos chiffres quand on me parle que il n'y a pas de relance économique, et pourtant on vient de finir, je crois que le vice-président a fait justement cette rencontre avec le secteur privé. Les témoignages sont flagrants, il y a une vraie reprise de l'activité économique. En 2016, nous avons plus de 1600 emplois créés, plus de 1400 petites entreprises créées. Donc, je ne sais pas sur quel chiffre il faut poser ce débat, mais en tous les cas, les chiffres ont été publiés. Il y a une vraie avancée. On peut toujours faire plus, c'est vrai. Mais n'oublions pas d'où nous venons. Et c'est pour cela que nous devons travailler avec l'État pour nous accompagner davantage et non pas se dire, ah, on a demandé 3 milliards, on a eu que 1 milliard 4. Non, quand l'État nous donne quelque chose, malgré leurs contraintes financières, il faut savoir dire merci et après poursuivre le dialogue.
Nous avançons toujours sur dire merci. Mm-hmm. Quand on parle de l'État, effectivement, quand on entend, juste avant les présidentielles, que l'État a accordé 360 milliards à la Guyane, on se dit, mais mince, nous ne demandons que 18 milliards, par exemple. Quand on parle des chiffres, oui, certes, nous avons dit qu'il y a eu quelques petites améliorations, mais à qui cela profite-t-il, Nicole? Quand on pense que ces grandes famille dont tu parles, qui s'entassent, eux, ceux-là crient famine, ceux-là se lèvent. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, la majorité, donc, est de votre camp, vous avez, donc, entre vos mains les moyens, mais il y a une grande partie qui est encore oubliée. Quand on sait que chaque année, il y a des étudiants qui sortent de l'école, qui cherchent du travail, diplômés ou pas diplômés, qui sont à hauteur de 2500, voire 3000 qui sortent de l'école. Vous nous parlez de 1000 emplois donnés. Bon, j'espère que le CAE n'est pas compris là-dedans.
Évidemment.
Il y a quand même 2500 encore qui attendent. Non seulement ça, non seulement au niveau des étudiants, mais il y a aussi les chômeurs qui aussi, eux, attendent à ce qu'il y ait une réponse à ce niveau-là. Voilà. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de d'avancées extraordinaires. C'est ce que nous avons dit. Des petites avancées que vous contentez aujourd'hui à dire tout haut que tout va bien. Nous, on dit non, tout va mal. Il faut absolument que nous allons un peu plus vite et que devant la France, et là encore, nous sommes des autonomistes et nous voulons rester au sein de la France, leur dire que, quoi qu'on dise, quoi que vous dites aujourd'hui, il y a vraiment une grande misère aujourd'hui en Polynésie. Et nous voulons éviter justement qu'il y ait une grosse révolte par la suite et cette grande fracture sociale se voit. Alors les chiffres, effectivement, au niveau de l'IGS, au niveau donc de l'Institut des statistiques, oui, nous les avons étudiés. Après, vous savez pertinemment qu'il y a diverses interprétations. On peut en parler parce que les chiffres, on les traduit aussi comme on veut. Mais le terrain, je pense, est le meilleur thermomètre pour nous tous.
Ce que vous dites, Théoura Eriti, c'est que vous mesurez sur le terrain quelque chose d'assez différent de ce qu'on voit de ce qu'on peut lire sur l'ESPEF, parce qu'il faut quand même reconnaître que, par exemple, sur les chiffres du tourisme, sur les chiffres de l'emploi, on a une courbe
qui commence à monter, effectivement. Mais à qui cela profite-t-il aujourd'hui? C'est pour ça que je voudrais revenir sur les priorités. Quelles sont les réelles priorités aujourd'hui? On est de ceux qui en ont déjà ou on regarde ceux qui en ont pas aujourd'hui? Voilà, c'est de réduire cette fracture sociale pour ne pas que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Bon, après, c'est un débat effectivement à faire. Tu auras beau soupirer, Nicole, mais je crois que notre regard à nous, quand on est en politique, quand on entre en politique, c'est avant tout de penser à ceux du bas aussi. Parce que sinon, nous autres qui sommes quand même, qui avons de la chance en rentrant chez nous d'avoir quelque chose dans l'assiette, tôt ou tard, nous serons aussi embêtés. Nous serons aussi, parce que ceux-là vont se lever. Ceux-là vont, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de vols, plus en plus d'agressions, l'échec scolaire aussi augmente, ça tu peux pas le nier, même s'il y a eu quelques améliorations. Mais il y a une grosse souffrance, Nicole, il faut ouvrir les yeux. Je pense qu'on est tous en phase, mais c'est juste, comment on peut avancer et quelles sont les priorités et aller quand même un peu plus vite, parce que vraiment là, ça devient urgent.
Une réponse, Nicole Sinclair, et puis on avancera.
Non, moi je critique cette façon de faire la politique en se basant sur la misère des gens, en exagérant tout. On a l'impression qu'il y a que le Tahoe Rahui Ratira. On a l'impression qu'il y a que le Tahoe Rahui Ratira qui s'occupe des plus démunis. Moi, je suis désolée de vous dire que, évidemment, le pays va mieux et on a relancé le système d'aide aujourd'hui. Alors ça, c'est pour qui? C'est pour les riches. Aujourd'hui, le gouvernement, pour recréer de l'emploi, donne de l'activité aux entreprises, mais pour qu'ils puissent, donne des chantiers, évidemment. Ben, c'est pour qu'ils puissent réembaucher du monde. Donc, voilà, voir cette Polynésie noire comme ça, mais ternir, mais c'est vraiment faire de la politique sur la misère des gens. S'il y a bien une priorité que le président Édouard Fritch a mis en place, parce que ça ne fait que 2 ans et demi quand même que nous sommes au gouvernement, mais le président Édouard Fritch, dans sa politique, a voulu mettre au cœur la famille polynésienne. Et tout est centré autour de la famille. Mais comment puis-je débattre avec des personnes, et ça se voit au niveau des débats à l'Assemblée, quand vous voulez même pas reconnaître les chiffres qui sont publiés? Alors c'est facile de venir nous dire aujourd'hui, mais il faut aller plus vite. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes là. Vous connaissez la situation où était la Polynésie française. Quand on vient me parler de la PSG, mais ça fait 10 ans que notre caisse de prévoyance sociale, elle est en danger. Mais quel est le gouvernement qui a eu la responsabilité de proposer une réforme de la PSG? Eh bien, je suis désolée. Aujourd'hui, le gouvernement du président Édouard Fritch va prendre ses responsabilités, va en assumer les conséquences, parce que c'est facile d'aller dire à Paris, venez combler notre déficit, si nous ne démontrons pas aussi un certain effort. Et c'est toute la différence des relations que nous avons avec Paris aujourd'hui, et à mon avis que vous n'aurez pas demain avec Paris.